Bonjour, je m'appelle Jean-Michel, j'habite en Bretagne, enfin Finistère Sud plus exactement, et je souhaitais que l'émission de Téléphone Sonne traite du taffetas. C'est un sujet qui n'est pas beaucoup abordé dans les médias.
Eh bien si, ce soir c'est la proposition donc de Jean-Michel que nous avons retenue, une proposition relayée par de nombreux auditeurs. Le TAFTA, TTIP ou GMT selon les acronymes et leur langue, c'est quoi exactement ? Un traité de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis dont les négociations ont débuté en juillet 2013 et qui sont toujours en cours, des discussions qui suscitent questions et inquiétudes.
La question que je me posais sur ce traité-là, c'est si ça n'allait pas apporter encore plus de déréglementation au niveau du commerce. Et la deuxième question que je me posais, c'est est-ce que les politiques, ceux qui décident, ne s'abritent pas derrière ce genre de traité en disant on ne peut plus rien faire. Moi c'est pour l'avenir, c'est pour ce qui va se passer un peu plus tard. Moi je suis retraité, moi les jeux sont faits pour moi, mais c'est pour ceux qui viennent derrière, ceux qui viennent sur le marché du travail, ceux qui veulent s'insérer dans la société.
Encore plus de déréglementation avec risque pour les consommateurs européens, mais aussi manque de transparence dans les négos, mainmise des multinationales et justice au-dessus des États. Voilà les angoisses suscitées par le TAFTA. Pas du tout, ça va doper la croissance européenne, rétorquent ses défenseurs. Vrai motif d'inquiétude et éventuel fantasme sur le sujet. On en parle ce soir au Téléphone Sonne avec le public qui nous a rejoint au studio 611 de la Maison de la Radio. Bienvenue à tous et j'attends vos questions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux franceinter.fr, Facebook, Twitter avec le hashtag Telson.
France Inter, Hélène Jouan, le Téléphone Sonne.
Pour répondre à vos questions ce soir, celles des auditeurs et celles du public que j'invite à interroger nos invités, je vais donc vous présenter mes invités. Mathias Feckel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire d'État au commerce extérieur, à la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Yannick Jadot, bonsoir.
Bonsoir.
Député européen Europe Écologie Les Verts et vice-président de la commission parlementaire sur le commerce international. Donc vous êtes un de ceux qui avaient accès à quelques informations sur le TAFTA, on va y revenir. Thomas Porcher, économiste, bonsoir.
Bonsoir.
Co-auteur avec Frédéric Farah de TAFTA, l'accord du plus fort, paru aux éditions Max Milo. Et Marie-Christine Vallée, bonsoir.
Bonsoir Hélène.
Vous êtes journaliste et spécialiste des questions européennes à Radio France.
France Inter, le téléphone sonne. Intervenez 01 45 24 7000 sur la page Facebook du téléphone sonne et sur Twitter avec le hashtag Telson.
Alors on va commencer par répondre à la question de Jean-Michel, aux nombreuses questions d'ailleurs qu'il nous pose. Première question, est-ce que finalement les négociations qui sont en cours ne vont pas aller vers plus de déréglementation ? On commence par celle-ci, puis après il y en a une quand même sur l'emploi et sur éventuellement le rôle des politiques. Plus de déréglementation, est-ce que c'est le risque ? Yannick Jadot.
Oui, c'est le risque parce que jusqu'à maintenant, la plupart des négociations commerciales portaient sur les droits de douane, en fait, sur les instruments spécifiquement commerciaux. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de droits de douane avec les États-Unis, même si ça protège nos secteurs agricoles. Et en fait, la négociation, elle porte sur nos règles, sur les normes qui encadrent l'économie, qui encadrent la société. Alors, quand il s'agit de la taille des mannequins dans les voitures qu'on utilise pour faire les crash tests, il n'y a pas de problème.
On se dit que ce n'est pas bien grave.
Ce n'est pas bien grave et tant mieux si on va vers plus d'harmonisation. Le problème, c'est que là, nos normes et nos règles, ce sont aussi des choix de société. C'est la protection de la santé, c'est notre refus des OGM, du bœuf aux hormones, de la volaille chlorée, c'est la défense des services publics, c'est la protection de nos données personnelles. Vous savez qu'aux États-Unis, on aime bien marchandiser les données personnelles. Nous, on considère que c'est la vie privée, heureusement. Et donc, c'est tout ça qu'il y a sur la table des négociations. Et évidemment, c'est à travers un prisme commercial. Il s'agit bien d'harmoniser, de standardiser ces normes. Et donc, il y a évidemment menace sur la protection des consommateurs, des salariés, des citoyens.
Mathias Feckel, c'est le risque, cette libéralisation où finalement c'est nos choix de société, français et européens, qui sont éventuellement appelés à disparaître ou en tout cas à être affaiblis dans cette discussion ?
L'enjeu de ces négociations, comme de toutes les autres négociations, c'est de permettre évidemment de préserver nos choix. Et personne, ni au gouvernement, ni en tout cas ailleurs, souhaite revenir là-dessus. Mais il y a beaucoup de choses qui sont sur la table. Et c'est pour ça que moi je veux remercier et France Inter et Jean-Michel d'avoir demandé ce débat-là, parce que moi je suis convaincu que sur ce sujet, il faut que les choses soient posées sur la table. Depuis 2 mois que je suis au gouvernement, c'est ce que je souhaite faire. Mes prédécesseurs avaient travaillé aussi là-dessus pour que les données soient publiques et qu'il puisse y avoir un débat démocratique. Mais simplement, il y a à la fois fois des sujets de déréglementation qui sont sur la table et on pourra les évoquer, mais il y a aussi dans ces négociations la possibilité de fixer de nouvelles règles, de réguler, d'apporter justement une défense à un certain nombre de conceptions qui sont pour nous fondamentales dans l'alimentation, dans la santé, dans les services publics, dans l'environnement. Et il ne faut pas dire mécaniquement que parce qu'il y a négociation, il y aura automatiquement la fin du modèle français, la fin de nos préoccupations, la fin des enjeux auxquels nous sommes tous extrêmement attachés. Ce qui est important, vu l'ampleur de ce débat, avec 800 millions de personnes potentiellement concernées, avec un tiers des flux commerciaux du monde qui peuvent être potentiellement touchés par cet accord, c'est que les choses soient posées, qu'il puisse y avoir un débat et que les Français, les Européens sachent de quoi il est question.
On va revenir justement sur cette opacité parce que c'est quand même ce qui est reproché depuis longtemps à ces négociations. Alors certes, il y a quelque chose d'un petit peu nouveau, c'est que finalement le mandat qui a été donné à l'Europe pour négocier est public depuis maintenant quelques semaines, mais il reste encore plein de questions. Il y a des rounds de négociation, je crois qu'on en est au septième, on ne sait pas franchement ce qui se passe. Juste un petit mot de pédagogie avec Marie-Christine Vallée. Qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui? De quoi on parle aujourd'hui entre les États-Unis et l'Europe?
Eh bien, justement, c'est inscrit dans le mandat qui a été publié le 9 octobre, 15 mois après l'ouverture des premières négociations. Donc, il s'agit d'augmenter le commerce des biens et des services et également des investissements entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc, il y a une suppression des droits de douane et donc le rapprochement des réglementations, ce qui fait évidemment
très peur. Mais dans tous les domaines ?
Non, il y a des domaines qui en sont sortis. Par exemple, il y a l'exception culturelle. Tout l'audiovisuel n'en fait pas partie. Également, il y a des portions d'industrie de la défense. Mais par contre, il y a des secteurs, il y a un groupe de travail qui s'occupe de 9 secteurs, parmi lesquels on peut citer la pharmacie, la chimie, les cosmétiques, l'automobile notamment, le matériel médical. Donc il y a beaucoup de domaines sur lesquels ils ont déjà commencé à travailler, à négocier, même si on nous dit qu'ils en sont beaucoup dans une approche exploratoire, qu'ils en sont à échanger des propositions, des papiers pour donner des hypothèses ou faire des propositions, mais qui sont pas vraiment, on n'est pas encore dans la décision.
Thomas Porcher.
La Commission parle souvent de rapprochement des normes, vous avez utilisé ce terme aussi, mais rapprochement des normes, ça veut rien dire. En réalité, on va pas.
On choisit l'une ou l'autre.
Pour les normes techniques, on va pas couper un câble en deux. Il y a des industries qui vont, les industries européennes qui vont s'ajuster probablement aux industries américaines sur un tas de secteurs. Vous regardez par exemple le secteur de l'électronique. Vous avez 7 entreprises américaines dans les 10 plus grosses marques. Vous avez 0 européenne. Alors, les faibles, celles qui sont européennes, vont devoir s'ajuster aux américaines. La grande distribution, c'est pareil. Vous en avez 6 qui sont américaines et vous n'en avez pas d'européennes.
Mais dans l'agriculture, par exemple, on dit qu'on a aussi des choses à gagner dans l'agroalimentaire. Par exemple, les produits laitiers, on se dit qu'on pourrait peut-être vendre plus de produits laitiers aux États-Unis si le marché s'ouvrait.
C'est que les intérêts, parfois, des multinationales, qu'elles soient américaines ou européennes, peuvent converger quand il s'agit d'abaisser les réglementations. Par exemple, la fracturation hydraulique, Exxon Total, qui sont deux compagnies concurrentes, s'accordent pour casser la loi d'interdiction de la fracturation hydraulique. Et donc, dans le lait, dans les produits alimentaires, pour baisser les réglementations, le cahier des charges, ça peut être le cas, puisque ça profite aux entreprises, qu'elles soient américaines ou européennes.
Alain nous appelle de Saint-Étienne. Bonsoir, Alain.
Oui, bonsoir. Bonsoir aux invités. Alors, en fait, ma question, elle va porter sur ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'on va demander, et je dirais être capable, parce qu'on est spécialiste pour se coucher, en général, d'avoir un étiquetage clair, précis et net, et j'insiste sur les mots comme je le fais à la voix, c'est-à-dire d'où viennent les choses et qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes. Ensuite, puisqu'on est, il y en a qui reprochent un capitalisme financier, c'est le marché qui décide, ben justement, le consommateur, il faudra qu'il joue son rôle de consommateur, surtout les Français qui sont toujours les premiers à gueuler, mais ils font jamais rien, on achète ou on n'achète pas. Mais un étiquetage clair, parce que si on se rappelle du dernier scandale alimentaire, la viande de cheval, ça venait de tout et de n'importe où. Et surtout, si jamais il y a des transgressions, des peines de prison, parce qu'il en faut qu'il soit, et je fais référence donc au scandale de cheval, encore que là, la viande était comestible, mais c'était autre chose, mais des vraies peines, voilà. C'est-à-dire, voilà, une carotte et un bâton, et un étiquetage clair. J'insiste qu'on ne se couche pas, encore une fois, devant les ricains. Voilà.
Merci Alain. Alors, le consommateur, comment il pourra s'y retrouver? Est-ce qu'effectivement, il aura toutes les informations nécessaires? Alors là, on se place dans l'idée que ça y est, que le traité, il est conclu et que tout va bien. Yannick Jadot.
Mais là, c'est vraiment la conception qu'on a de la régulation des échanges. Du côté américain, et votre auditeur a raison, on est plutôt sur une forme d'information du consommateur et c'est à lui de choisir, d'une certaine façon, le risque qu'il est prêt à assumer ou pas. Au niveau européen, on a choisi autre chose. On a choisi le principe de précaution qui est de dire finalement s'il y a un risque potentiel pour la santé, pour l'environnement, on ne prend pas ce risque. Et c'est une gestion publique de ce risque. C'est-à-dire qu'on ne on dit pas finalement, il y a ceux qui peuvent choisir, y compris parce qu'ils ont les moyens financiers de choisir le type d'alimentation qu'ils vont. Ils vont prendre du bio, de l'équitable, de non-OGM.
Ou et du bœuf aux hormones.
Et il y a tous ceux qui, évidemment, n'auront pas les moyens de choisir. Et ceux-là, on leur fera supporter le risque. Parce que si on prend, par exemple, la question de l'alimentation et de l'agriculture, une ferme aux États-Unis, en moyenne, c'est 170 hectares. Ils utilisent des OGM. Ils n'ont pas de contrôle public dans les abattoirs. Ils utilisent les hormones. Donc, ils ont un système extrêmement industrialisé et qui, de fait, coûte moins cher que le système européen, où la ferme, en moyenne, c'est 13 hectares et où on a cette volonté d'avoir des processus de production qui respectent davantage la nature, qui respectent davantage l'alimentation. Et donc, on va avoir cette confrontation. Et évidemment, du côté américain, qu'est-ce qu'on veut ? C'est l'abaissement de nos normes et c'est le commissaire européen au commerce qui le dit. Il a dit il faut accélérer, par exemple, les autorisations des OGM américains en Europe pour faciliter la négociation avec les États-Unis. Donc on voit bien qu'on est sur un modèle où les États-Unis avancent pour qu'on réduise notre protection de l'environnement et de la santé. Et puis j'espère qu'à un moment, on pourra revenir sur cette question de l'opacité et de la transparence
on va y revenir.
Que vous aviez évoquée, parce que là, c'est un véritable scandale.
Mathias Feckel, ce qu'on entend quand même chez Alain, c'est aussi que, en gros, on ne peut même pas lutter contre les Américains, que les Européens et les Français vont se coucher et que c'est forcément... Pourquoi est-ce qu'on a cette idée que c'est forcément un affaiblissement du coup, des normes environnementales et sanitaires pour les Européens ? On
n'a
aucun moyen de résister.
Non, mais il ne faut pas seulement résister, il faut être offensif. Parce que dans les négociations, il y a à la fois ce qu'on veut garder et ce qu'on veut sauvegarder de notre modèle. Et moi, je rejoins beaucoup de préoccupations qui sont
exprimées. Mais on a les moyens de le faire ?
Évidemment. Enfin, comment on peut rentrer, quand on est la France et quand on est l'Union européenne, dans une négociation en se disant d'emblée, on va se coucher ? Quelle est la réalité des échanges, de nos échanges avec les États-Unis ? C'est d'abord que 80% des entreprises françaises qui exportent vers les États-Unis sont des PME. Et ce sont souvent dans des secteurs où nous avons des intérêts offensifs très forts aujourd'hui pour nos agriculteurs. Moi, je suis élu d'un département, Lot-et-Garonne, très agricole. Je suis hyper attentif à ça, y compris d'abord aux questions de qualité. Aujourd'hui, un agriculteur qui veut exporter vers les États-Unis, il est confronté à des questions de contrôle extrêmement strictes parce que les Américains ne reconnaissent pas les contrôles vétérinaires européens qui pourtant sont parmi les plus poussés du monde et qui sont d'une grande qualité. Et donc si vous voulez exporter des pommes, des poires vers les États-Unis, aujourd'hui, vous mettez 10 ans à obtenir un certain nombre de certificats. Vous avez besoin de refaire des contrôles aux États-Unis que vous avez déjà fait de manière hyper rigoureuse chez vous. Même chose pour l'exportation de charcuterie. Vous
donc
voulez
un
exporter
accord pourrait éventuellement permettre d'ouvrir ces
barrières-là. Il y a une entreprise française aujourd'hui qui est autorisée à exporter des charcuteries vers les États-Unis. Bon, est-ce qu'on veut se contenter de ça ? Évidemment non. Et donc, dans une négociation, il y a... Des rapports de force qui doivent être installés. Moi, je suis parfaitement d'accord pour dire il ne faut pas rentrer dans une négo en s'excusant d'exister, en disant « Mon Dieu, pardon, on veut faire ce que nous demandent les Américains ». Évidemment, non. Et l'Europe, elle doit avoir son mot à dire là-dessus. Et la France, sur un certain nombre d'intérêts offensifs, est extrêmement présente.
Thomas Porcher, votre livre s'appelle « Taftal, l'accord du plus fort ». On n'a pas l'impression que ce soit nous. Les Européens, je veux dire.
Non, alors moi je pense que c'est déjà une opposition entre les industries américaines et les industries européennes. Et là-dessus, il faudrait faire une analyse secteur par secteur. Mais je suis persuadé que sur beaucoup de secteurs, on n'est pas gagnant. Quand on regarde les 100 premières multinationales au monde, il y en a 60 américaines, il y en a beaucoup moins d'européennes. Donc je pense que l'automobile, on peut être gagnant, mais sur beaucoup de secteurs, on va être perdant. On va devoir s'ajuster aux normes américaines et on va en payer le coût, subir le coût d'ajustement qui pourrait créer des licenciements. Donc, et c'est aussi une opposition entre les multinationales et les consommateurs quand les intérêts convergent. Ça, c'est sûr. Je voulais juste ajouter une chose. Il ne faut pas penser non plus que l'Europe, c'est le village gaulois. Hein. On est aussi une passoire sur plein de réglementations. On a passé un accord, par exemple, sur le cacao. Hein. On a les chocolatiers qui étaient en concurrence se sont mis d'accord pour baisser la part du cacao, le remplacer par des matières grasses végétales qui coûtent 10 fois moins cher.
Vous voulez dire qu'on n'a pas de leçon non plus donner, même aux Américains.
Les farines animales qui ont provoqué la vache folle ont été remises en vente là, depuis cet été. Donc, vous voyez, on n'est pas non plus ce village qui se défendrait, qui aurait des normes très élevées. On a des normes qui sont assez basses, hein, déjà.
Yannick Jadot.
C'est exactement ça. La question, ce n'est pas l'Europe contre les États-Unis. Évidemment, l'Europe est divisée et donc est un négociateur affaibli, on le voit bien sur les politiques économiques, sur les politiques industrielles. Mais c'est simplement aussi un enjeu de démocratie, de choix de société contre, d'une certaine façon, les intérêts des grandes firmes multinationales. On vient de conclure une négociation avec le Canada. Ce n'est pas la négociation avec les États-Unis, mais celle-là, elle est conclue. Typiquement, dans cette négociation, ça renforce la protection des brevets sur les médicaments et ça remet en cause, par exemple, la politique canadienne très offensive sur les génériques. Donc, ça va être un coût pour les citoyens canadiens qui vont devoir payer plus cher leurs médicaments. Donc, vous voyez, dans les calculs, l'Europe gagne dans ce cas-là. Mais du point de vue de l'intérêt général, du point de vue du bien-être des citoyens, ils perdent.
Une question dans le public. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, je suis Jean-Marc. Merci de prendre ma question. Voilà, j'interviens notamment parce que le sujet m'intéresse, mais il m'intéresse à ce titre d'abord, qu'il fait preuve d'une certaine opacité. Enfin, on le connaît notamment parce qu'on ne le connaît pas ou on le connaît mal. On connaît le mot TAFTA. Je crois qu'on peut aussi évoquer le CETA, qui concerne notamment l'Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis. Ma question est la suivante. Si vous le permettez, je la ferai en trois petits points. Le premier point, quel est l'impact du TAFTA ? Quel serait l'impact du TAFTA qu'on connaît si mal et qui concerne potentiellement 800 millions de personnes sur le quotidien des consommateurs, des citoyens, des habitants ? Pour réévoquer une nouvelle fois le côté opaque, quel est le degré de connaissance de ces traités par nos représentants ? Est-ce que nos représentants ont réellement la main, les parlements nationaux ? Je pense qu'au niveau international, à Bruxelles, à Strasbourg, les gens sont peut-être plus avisés, mais est-ce qu'en France, nos représentants le connaissent bien, ces traités ? Et pour finir, je vous remercie, pour finir, quelques exemples qui commencent à devenir particulièrement inquiétants. Il m'a semblé entendre parler de déjà certaines actions de multinationales contre des États qui gagneraient leur procès grâce à trois juges, dont deux désignés par les parties elles-mêmes, le troisième étant désigné par les deux juges, si j'ai bien compris. Par exemple frappant, il semblerait qu'une grande entreprise française ait agi contre l'État égyptien parce qu'il avait des intérêts, cette société française avait des intérêts dans l'État égyptien dans lequel les parlementaires avaient voté une revalorisation du salaire minimum. Et dès lors, la société perdait de son intérêt dans ce pays. Là, il y a une réelle inquiétude et j'aimerais vraiment qu'on soit clair.
Alors, Jean-Marc fait toute l'émission à lui tout seul. Merci beaucoup, parce que c'est des questions très complexes. On va commencer peut-être, si vous le voulez bien, par votre deuxième question. D'abord, quel est le degré de connaissance, d'abord, des représentants nationaux ? Mathias Fekl, vous êtes secrétaire d'État au commerce extérieur, notamment. Quel est, vous, votre degré de connaissance du mandat et surtout des négociations en cours ? Parce que le mandat, on a bien compris que finalement, il avait été rendu un peu public. Mais où est-ce qu'on en est des négociations en cours ?
Alors, il y a plusieurs questions là-dedans. Où en est-on et quel est le degré de transparence ? Moi, une des toutes premières choses que j'ai faites quand j'ai été nommé il y a un peu plus de deux mois maintenant, c'est de vouloir construire un agenda autour de la transparence. Le gouvernement français, par la voix de Nicole Bric, ma prédécesseure, avait été le premier à demander la transparence du mandat de négociation, donc sa publication.
Enfin, qui elle, avait donné mandat. Enfin, c'était elle, Nicole Bric, à l'époque,
Non, attendez.
Ce sont les États qui ont donné mandat à la Commission.
Je sais, mais si vous permettez, pour que, parce qu'il y a des règles. Donc nous, on évolue dans un système où il y a des règles. Bon, pour qu'un mandat soit rendu public, il faut l'unanimité des États membres européens. Donc les États donnent mandat à la Commission, puisque c'est la Commission européenne qui négocie. Mais pour que ce soit officiellement publié, il faut que tous les États membres, les 28, soient d'accord. La France a été la première à demander que ce soit le cas. Nous avons d'abord été, non pas seuls, mais en tout cas pas majoritaires. Et puis progressivement, c'est quelque chose qui a fait son chemin. Moi, j'ai réitéré cette demande dès le lendemain de ma nomination. Et enfin, le 8 octobre, l'Union européenne a acté ça. Et le lendemain, vous l'avez dit tout à l'heure, le 9 octobre, ça a été publié. Ça, moi, je considère...
Pardon, c'est formidable, mais ce n'est pas du tout pour sous-évaluer votre action. Sauf qu'on avait
que
sur
ce n'est qu'un début.
Sociaux,
parce que
dans les partis politiques,
c'était un mandat qui avait déjà fuité. Et donc dire on a publié enfin un mandat qui avait déjà fuité, on peut effectivement dire franchement qu'avez-vous fait ? Alors qu'est-ce que ça change ? Ça change d'abord que pour la première fois l'Union européenne autorise une telle publication et donc crée clairement un précédent. Et ça change ensuite qu'à partir de là, il faut s'atteler à bâtir un agenda de la transparence du côté français et du côté de l'Europe en général. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord qu'il faut, moi je l'ai déjà fait régulièrement devant le Parlement pour rendre des comptes et ce sont des auditions publiques auxquelles tout le monde a accès. J'ai aussi décidé de refonder ce qu'on appelle le comité de suivi stratégique qui associe...
Où là, tout le monde peut venir s'exprimer,
que, enfin, des associations. La société civile en fasse officiellement partie. Donc maintenant, moi, je réunis deux collèges de ce comité, l'un qui est les parlementaires, y compris européens, l'autre qui est la société civile. Ce qui veut dire que des associations, des syndicats, des fédérations professionnelles, maintenant, sont officiellement invités au Quai d'Orsay.
Mais par exemple, des mouvements comme ATTAC, qui sont quand même très mobilisés aujourd'hui
ATTAC
contre ce
fait
traité,
fait désormais officiellement partie du comité que je réunis au Quai d'Orsay et sur lequel on est en train de bâtir un agenda de travail pour que tous les sujets soient sur la table, mais l'ensemble des sujets, c'est-à-dire que
mais les
rien,
sujets et l'avancée des discussions,
sûr,
c'est ça quand même qui importe.
On rencontre dans ce cadre-là. Non, mais je termine. On rencontre dans ce cadre-là certes. Des différentes avancées. Ça c'est la moindre des choses, que tout le monde puisse le savoir, mais aussi qu'il puisse y avoir des débats, qu'il puisse y avoir un travail. Encore une fois, beaucoup reste à faire, beaucoup d'informations restent à publier. La transparence des négociations commerciales, c'est un chantier qui est devant nous.
Yannick Jadot, vous n'avez pas l'air d'être tout à fait d'accord avec l'effort de transparence que Matthias Fekl semble dire avoir déjà fait.
Non, mais je viens de dire le contraire. Je viens de dire que c'est devant
c'est un
nous
premier pas.
Qu'il y a des
non,
choses.
Incontestablement, il y a une
ça
volonté de faire de la transparence. Le problème, c'est que, y compris dans la réalité, le ministre français en charge de la négociation commerciale ne peut pas avoir sur son bureau le texte très actualisé de la négociation en cours. Parce que, en fait, effectivement, on a diffusé un mandat qui est vieux de 16 mois. Tant mieux, fallait le faire. Mais enfin, pour tous ceux qui s'y intéressaient, on pouvait le trouver partout. Mais il faut saluer cette initiative. Mais tous les textes qui sont en cours de négociation, c'est-à-dire que tout ce sur quoi l'Europe et les États-Unis sont en train de se mettre d'accord, eh ben, ces textes-là, si vous voulez les consulter, eh ben, faut par exemple que monsieur le ministre aille à l'ambassade américaine dans une salle fermée dans laquelle
mais
il peut
vous,
pas...
Mais vous, par exemple, est-ce que vous y avez accès en tant que vice-président de la commission parlementaire sur le commerce international ?
En tant que vice-président, j'y ai accès, mais j'ai formellement l'interdiction de prendre, par exemple, des photocopies ou de pouvoir regarder
mais
précisément...
Mais vous pouvez nous dire, vous, ce qu'il y a dedans, si éventuellement vous posez une question très précise sur...
Mais moi, je peux vous dire ce qu'il y a dedans. Le problème, c'est que, si vous voulez, on ne peut pas avoir un système. Encore une fois, ce sont des choix de société qui sont en cours de négociation. Ce sont des acquis sociaux. Ce sont des luttes sur les OGM, les services publics. Et au moment où, si vous voulez, c'est négocié à travers simplement le prisme commercial, les citoyens ne peuvent pas savoir ce qu'il y a dedans. C'est totalement, aujourd'hui, inacceptable. Encore plus quand on sait l'état de défiance des Européens vis-à-vis de l'Europe, construire cette négociation dans l'opacité complète, sans les négociations, et moi je considère que vu les sujets traités contre les citoyens, c'est totalement inacceptable aujourd'hui.
Rapidement, parce qu'il y avait encore deux autres questions chez Jean-Marc, quel impact pour le quotidien, Thomas Porcher, quel impact s'il y avait effectivement un accord qui était conclu ?
Alors, bon, je pense que ça a déjà été dit, hein, il y aura un nivellement vers le bas, surtout pour les classes les plus pauvres, je pense, des réglementations, notamment dans l'alimentation. Et puis après, ce qu'on nous met de l'autre côté, la carotte qu'on nous met en avant, c'est les emplois. On nous dit que ça va créer 2 millions d'emplois. Hein, et ça, c'est clairement affiché sur le site, pareil, de la Commission. Il y a 4 études qui ont été mises en avant. Alors déjà, la première des choses, c'est qu'on nous dit sur ce site qu'on ne va pas toucher aux normes et que ça va créer 2 millions d'emplois. Mais dans les modèles qui sont utilisés, hein, qui sont largement critiquables, il y a une baisse de 25% des normes pour créer 2 millions d'emplois. Donc ça, c'est la première des choses. Eux partent du principe qu'il y aura 25% en moins de baisse des normes. Et puis ensuite, ces modèles peuvent être critiqués. Hein. Même les économistes qui l'ont fait, ils savent que c'est une situation parmi tant d'autres et qu'il y a des critiques à ce type de modèle. Il y a même une étude américaine qui est sortie de l'université de TUF qui... près de Boston, qui dit en fait que ça nous ferait perdre 600 000 emplois en Europe et plus de 120 000 emplois en France. Donc vous voyez, on ne serait pas dans 2 millions d'emplois, on serait dans des pertes d'emplois. Et quand on regarde les précédents rapports qui ont été faits, par exemple en 88, il y a le rapport Cecchini sur le marché unique, on nous promettait 6,5% de croissance par an avec le marché unique. On n'a jamais eu ça. On nous a promis des millions d'emplois, on ne les a jamais eus. Le NAFTA, on promettait pareil, des créations d'emplois par million aux États-Unis et au Mexique. Il y a une étude qui a été faite après coup, hein, et qui qui parlait plutôt d'un million d'emplois détruits aux États-Unis et d'un million d'emplois détruits au Mexique. Donc vous voyez, rien n'indique qu'il y aurait les créations d'emplois que met en avant la Commission.
Mathias Feckel.
Sur l'aspect études, je rejoins ce qui vient d'être dit. On a un besoin d'expertise complémentaire, y compris d'expertise indépendante, ce qui est encore un autre débat avec un débat contradictoire là-dessus. Et on a besoin d'évaluation des accords passés pour regarder ce que ça a donné et le regarder vraiment de manière objective. Donc il y a à la fois du côté de la Commission européenne, du côté de différents organes de l'État, dans les universités, etc., un besoin d'expertiser et de pouvoir regarder les choses. Alors moi, je ne crois pas à tel ou tel modèle économique parce qu'effectivement, ils sont tous critiquables, mais de pouvoir verser au débat une analyse sur ce que ça a donné en termes sectoriels, en termes sociaux, en termes environnementaux, pour qu'on ne soit pas comme ça, une espèce de négociation béate avec des arguments d'autorité qui sont posés et qui disent, voilà, une étude vous le prouve, donc il faut y aller.
Dernier aspect qui avait été posé par la question de Jean-Marc, il parlait en gros d'une éventuelle justice supranationale, mais je crois que Michel Duvar veut nous poser un peu ce type de question. Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir. Effectivement, c'est à peu près le même genre de question. J'aimerais en fait que vous, parce que je l'ai entendu dire, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, est-ce que vous confirmez ou infirmez le fait qu'un État pourra s'opposer, au terme du traité TAFTA, pourra s'opposer à une règle avec laquelle il n'est pas d'accord, ben, par exemple, on va dire l'importation du poulet chloré, par exemple, il pourra s'y opposer, mais en revanche, il ne pourra pas s'opposer au fait de devoir payer des pénalités si d'aventure il a un procès contre lui par multinationales américaines ou autres qui auraient voulu justement faire exporter leur poulet chloré en France, dans l'État.
Merci Michel, affirmation ou confirmation d'une justice, je crois que là on parle de tribunal d'arbitrage. Mmh. Il a raison Michel, si effectivement un État voulait refuser, il peut, mais ça pourrait lui coûter très cher. Yannick Jadot ?
Absolument. Il y a déjà le cas. Hein. C'est pas, on n'est pas en train de fantasmer ce que peut être ce transfert de souveraineté des citoyens, des collectivités, parce que ça se passe déjà dès le niveau des collectivités, des États ou du niveau fédéral, vers les entreprises. Les entreprises pourraient attaquer les États devant un tribunal privé, supranational, et de demander des dédommagements quand ils considèrent que les politiques, les décisions qui sont prises remettent en cause pas seulement l'activité, mais les perspectives de profit. Avec ce système-là qui existe déjà, Philip Morris, le géant du tabac, demande des milliards de dollars d'indemnités au gouvernement australien et uruguayen parce qu'ils ont mis en place une politique anti-tabac. Vous avez une société américaine qui attaque le gouvernement du Québec parce qu'il lui demande 250 millions de dollars de dédommagement parce qu'ils ont mis en place un moratoire sur l'exploitation de gaz de schiste. Vous avez une entreprise suédoise qui s'appelle Vattenfall qui demande 4,7 milliards d'euros d'un dédommagement au gouvernement allemand parce
qu'il
est sorti du nucléaire.
Mais là, c'est ce qu'on voudrait mettre en place éventuellement de façon vraiment qu'on institutionnaliserait dans le cadre de ce traité.
On institutionnalise un transfert de souveraineté, de démocratie. Non pas que ces entreprises nous empêcheront de décider, mais on voit bien qu'avec la pression de l'argent, ils rabaisseront toutes nos ambitions du point de vue de la protection des citoyens, de la protection du consommateur, de la protection des salariés. Et ça, c'est le truc qui est totalement injustifiable dans le monde d'aujourd'hui de continuer à donner plus de pouvoir aux entreprises contre notre capacité à décider de la société dont on veut.
Marie-Christine Vallée.
Alors sur le tribunal arbitral, il faut voir comment les choses vont évoluer parce que c'est vrai que dès le début, ça a été un point d'inquiétude très fort, si bien que la Commission européenne a lancé une consultation et cette consultation s'est terminée fin juillet. 150 000 personnes ont répondu. Et plus d'un tiers, ce sont des Allemands qui ont répondu, parce qu'il y a une grosse inquiétude dans l'Allemagne sur cette question-là. Et donc, on va voir, une fois que l'étude aura été faite, dépouillée, on attend un rapport prévu fin novembre ou dans le courant du mois de décembre, pour voir quels sont les avis de tous ceux qui ont répondu sur ce tribunal arbitral.
Mathias Feckel, c'est une ligne rouge, ça, pour le gouvernement français ? Ou
la France
il faut discuter, il faut consulter ?
La France n'était pas demandeuse, d'abord, d'avoir ce genre de mécanisme dans le traité. Il y a eu des réserves qui ont été émises aux différentes étapes de la négociation, et pour nous, ce sujet-là est clairement posé, parce qu'il pose des questions fondamentales sur le droit des États à édicter des règles et à les faire respecter, sur le caractère indépendant, impartial de la justice, et donc il faut que les dispositifs retenus répondent à l'ensemble de ces critères. Et clairement, c'est un débat fondamental qui est en cours. Il est en cours aussi en Allemagne, où vous avez des débats dans la grande coalition aujourd'hui très vifs sur cette question-là. Moi, je l'ai évoqué avec mes homologues européens.
Les réserves que vous avez exprimées sont respectées dans l'accord avec le Canada qui va arriver devant le gouvernement français.
Il y a aujourd'hui un travail qui est en cours aussi là-dessus, avec le sujet qui est posé pour le Canada comme il l'est pour les États-Unis. Simplement, puisqu'on pose l'ensemble des débats, il ne faut pas faire comme si c'est quelque chose qu'on découvrait. La France est partie depuis, a signé depuis des décennies plus d'une centaine d'accords de ce type, dont 95 sont en vigueur et prévoient ce genre d'accord. Donc il faut aussi avoir l'honnêteté de ne pas faire comme si tout d'un coup c'était quelque chose de totalement neuf. Ce qui change la donne, évidemment, c'est que c'est une négociation avec les États-Unis, avec tout ce que ça veut dire en termes de force de frappe juridique qui est en face. Voilà, c'est pour ça que le sujet est aujourd'hui posé, que le gouvernement français, avec d'autres gouvernements européens, a des exigences extrêmement précises là-dessus. Je l'ai dit, droit des États régulés, indépendance, impartialité de la justice. C'est un débat très important et qui doit être mené au sein de l'Europe. Il y a des positions là-dessus à bâtir. Si on veut que les choses marchent, il faut qu'on soit plusieurs en Europe à pouvoir peser en ce sens.
France Inter, le téléphone sonne. Intervenez au 01 45 24 7000.
Nicolas nous appelle de Paris. Bonsoir Nicolas.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Ma question est la suivante. Le meilleur moyen d'éloigner définitivement la menace du TAFTA que la Commission européenne veut nous imposer, n'est-il pas le retrait de la France de l'Union européenne, comme le préconise l'UPR, hein, l'Union populaire républicaine de François Asselineau, par l'application de l'article
Nicolas, on vous a reconnu
sur l'Union européenne.
Alors, une question posée par Nicolas. Est-ce que finalement, il ne suffit pas de sortir de l'Europe pour se sortir de cet effort de négociation.
C'est une question pour M. Jadot, mais je répondrai.
Non, parce que en quoi cette négociation ? Vous savez, moi, je suis un pro-européen. Il y a les anti-européens qui combattent TAFTA.
Le Front National, notamment.
Le Front National, notamment. Moi, je suis un pro-européen. Et là où je considère que cette négociation est une triple faute politique, parce que, un, les citoyens veulent de la démocratie et de la transparence en Europe. On est en train de faire de l'opacité et de la manipulation. Deuxièmement, les citoyens européens veulent être protégés. Ils voient bien certaines dérives de la mondialisation sur les différents niveaux de dumping, le pouvoir des multinationales. Et là, ils voient qu'on va les exposer un peu plus à cette mondialisation plutôt que les protéger. Et puis, troisièmement, on sait qu'on a besoin de construire le modèle européen de développement. On n'a pas de politique industrielle commune. Les Américains protègent leur marché public pour leur secteur stratégique, pour leur PME. Nous ne le faisons pas. Nous ne défendons pas notre sidérurgie. Là, les États-Unis défendent leur sidérurgie. Nous n'avons pas de politique économique commune. Et on voit bien qu'on n'arrive même pas à se mettre d'accord au sein de l'Europe sur la relance. Donc avant de négocier avec les États-Unis et de...
Faisons vraiment l'Europe.
Faisons l'Europe. Sachons ce que nous voulons pour l'Europe comme modèle de développement durable. Et après, on négociera avec les États-Unis sur le climat, l'évasion fiscale, les taux de change et tout ça.
Thomas Porcher.
Je rebondis sur ce qu'a dit Yannick Jadot plutôt que sur la question, parce que je pense qu'on n'a pas, c'est un peu court là pour débattre de la sortie de la France de l'Europe, mais juste ce traité ne répond à rien au problème de l'Europe actuelle. On a 25 millions de chômeurs, on nous promet 2 millions d'emplois dans 20 ans. On a un problème de croissance économique et on nous promet 1,5% de croissance ou 1,3% de croissance d'ici 20 ans. Donc ça ne répond vraiment en rien au problème actuel de l'Europe. Ça ne parle pas de la transition énergétique, ça ne parle pas du réchauffement climatique. On aurait pu faire un espèce de TAFTA, et là c'était l'occasion de le faire, un traité transatlantique avec des normes un peu nivelées vers le haut qui prennent en compte le réchauffement climatique.
Mais c'est trop tard, ça. C'est trop tard, ça, pour parler de, justement, pour élever éventuellement les normes. Je ne sais pas, est-ce qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'imposer aux Américains une filière de bœuf sans hormones, par exemple ? C'est impossible dans les discussions avec eux ?
On a fait ce TAFTA pour imposer un peu nos normes aussi au reste du monde. C'est ça la réalité. Là, on aurait
vous
pu
voulez dire contre l'Inde, contre la Chine,
contre la montée des émergents. Et on aurait pu faire justement un TAFTA qui soit sous les exigences du GIEC. Et là, ça aurait été intelligent et on aurait imposé des normes d'un autre niveau aux pays émergeants qui nous auraient probablement suivi.
Et là, c'est totalement déconnecté. Les deux négociations sont
absolument
totalement
rien à voir.
Déconnecté.
On est sur des négociations qui datent des années 70.
Au contraire, l'idée, c'est d'importer du gaz de schiste des États-Unis. Ce n'est pas d'avoir un partenariat sur les technologies vertes, sur les énergies renouvelables, sur la lutte contre les dérèglements climatiques. C'est de pouvoir accéder au gaz de schiste américain et au sable bitumineux du Québec, ce qui est totalement à l'opposé de ce qu'il faut faire pour lutter contre le dérèglement climatique.
Mathias Fekl, allez-y. Allez-y, répondez à Yannick Jadot et à Pierre Fréjou, je vous pose une petite question.
Cet accord sur bien des sujets respecte le droit de chaque peuple de faire ses choix. Et donc, si les Américains souhaitent exploiter le gaz de schiste, qui, moi, me paraît pas une bonne chose, mais s'ils souhaitent le faire, ils peuvent le faire. Et ils peuvent le faire avec ce traité comme aujourd'hui. Et nous, nous pourrons continuer à ne pas l'exploiter. Donc, il faut quand même savoir ce qu'on veut. On ne peut pas, d'un côté, dire il faut que chacun puisse continuer à faire ses choix, et de l'autre côté, dire on veut, nous, imposer aux Américains ceci et cela. Ce qui est important, c'est de garder une capacité à édicter des choix, à réguler les choses, à ce qu'on puisse faire nos propres choix collectifs sur des services publics, sur l'environnement, que demain personne puisse venir nous imposer d'aller chercher du gaz de schiste si nous ne le souhaitons pas. Et ça, c'est évidemment des lignes rouges, comme on dit, dans le cadre des négociations. Il y a toute une série de sujets, mais on a aussi des intérêts à défendre. Vous parliez de bœuf aux hormones. D'abord, nous, ce qu'on voudrait, c'est de pouvoir à nouveau exporter du bœuf vers les États-Unis. Je vous rappelle que l'embargo sur le bœuf, il est toujours en vigueur aux États-Unis et que notre filière viande est extrêmement fragilisée par le fait de ne pas pouvoir y aller. Que sur les marchés publics, quand vous avez un certain nombre d'États, de villes qui veulent s'équiper en tramway, aujourd'hui, les choses sont tellement fermées que nos entreprises françaises ne peuvent pas aller équiper des villes américaines en équipement. Donc nous, ce qu'on veut défendre dans cette négociation-là, puisqu'elle existe, puisqu'elle est aujourd'hui en cours, c'est des intérêts offensifs français pour nos entreprises et en particulier pour nos petites et moyennes entreprises qui doivent pouvoir accéder à un certain nombre de marchés américains.
Un
mais
mot
c'est
de
certainement
conclusion,
pas
s'il vous plaît,
d'accepter
sur
la dérégulation à tout va.
La suite du processus démocratique de tout ça. Admettons qu'il y a un accord qui soit conclu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cet accord passe devant les parlements nationaux? Est-ce qu'il passe devant le Parlement européen qui, à un moment donné, ratifie?
C'est ce qu'on appelle, en quelques secondes, c'est ce qu'on appelle un accord mixte. Donc il y aura à la fois une ratification européenne, ensuite une ratification par tous les États membres. Là-dessus, les États membres sont, chacun fait ça selon sa tradition constitutionnelle. En France,
sont députés
les parlements
et sénateurs
nationaux qui auront le dernier mot sur cet accord, sur le Canada et aussi sur l'accord avec les États-Unis. C'est quand même la moindre des choses dans une démocratie.
Merci à tous, merci d'avoir participé à cette émission. Une émission qui a été préparée par Ophélie Vivier, animée sur les réseaux sociaux par Antoine Bonvoisin. La réalisation ce soir, Stéphanie Texier. À la technique, Enzo Labori et Arnaud Caillé. Demain soir, un peu de sport au téléphone sonne. On parlera de tennis et de Coupe Davis. Tout de suite, c'est l'heure de l'humeur vagabonde. Bonsoir Caltine Evin.
Bonsoir Hélène.
Au programme ce soir.
Oh, vous allez m'envier. Nous allons parler de Proust. Proust filmé, Proust lu, Proust écrit. Voilà, c'est toujours bon à prendre.
Mais je vous envie tous les soirs, Kathleen. Très bonne soirée à tous.
Demain.
Et merci encore d'être venu assister à cette émission.